Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 3 décembre 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'alarme a sonné pour le régime sioniste et ses partisans, avertit le porte-parole de la diplomatie iranienne. La plus grande opération de contrebande d'armes jamais menée a été déjouée à Soleimania, au Kurdistan irakien, et la CDAO définit le terrorisme et les putschs comme priorité du sommet d'Abuja. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la sonnette d'alarme a été tirée pour le régime d'occupation israélien et ses soutiens occidentaux, en énumérant les principaux développements récents en faveur de la cause palestinienne. Dans un message posté sur Twitter le vendredi 2 décembre, Nasser Kanani a souligné 4 développements clés qui ont sonné l'alarme pour le régime sioniste et ceux qui soutiennent l'occupation. Les deux premiers facteurs, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, sont la crise et l'impasse politique et sécuritaire interne à Israël et la propagation de la résistance anti-occupation de Gaza à la Cisjordanie et aux territoires occupés de 1948. Concernant les autres facteurs montrant que l'alarme a sonné pour Israël, le diplomate iranien a cité la mondialisation de la haine contre le régime sioniste, dont certains aspects peuvent être observés en marge de la Coupe du monde de football au Qatar, ainsi que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution pour instaurer la journée de la mise en place du régime sioniste en tant que le jour de la Nakba. L'accent mis par le régime sioniste d'apartheid et ses partisans sur l'iranophobie est une tentative désespérée et futile de détourner l'attention du public de la question palestinienne et de fournir une respiration artificielle à un régime israélien mourant, a déclaré Nasser Kanani, faisant référence à la guerre hybride menée par les puissances occidentales contre l'Iran au cours des derniers mois. Le véritable vainqueur de la Coupe du monde est la nation palestinienne et son perdant est le régime sioniste, a dit le porte-parole de la diplomatie iranienne. La plus grande opération de contrebande d'armes jamais menée a été déjouée alors que le flux illégal d'armes vers l'Iran s'est accru ces derniers mois, selon les médias iraniens locaux. Les forces de sécurité ont confisqué une cache d'armes à Soleimania, une ville située dans l'est de la région du Kurdistan irakien. Samedi dernier, les forces de renseignement iraniennes ont déclaré que lors d'une opération de sécurité, elles avaient réussi à démanteler un gang international de contrebande d'armes et de munitions dans le sud-est de la province du Sistan et Baloutchistan. Les armes confisquées au gang de contrebandiers avaient été acheminées en Iran pour être utilisées dans le cadre des mouvements d'agitation récents soutenus par l'étranger. Lors d'une autre opération, les forces du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, ont également arrêté un officier de renseignement de l'un des États du Golfe Persique qui prévoyait de prendre des mesures anti-sécurité dans la province occidentale de Mosgan. Au début du mois d'octobre, la base Hamza Saïd al-Shouada du CGRI a déclaré dans un communiqué qu'une cellule de contrebande d'armes avait été démantelée par les forces du CGRI alors qu'elle cherchait à faire entrer clandestinement des armes dans le pays depuis la frontière nord-ouest. 9 fusils d'assaut et une grande quantité de munitions ont été saisis en leur possession, précise le communiqué. La déclaration indique qu'en fournissant des armes à des terroristes et à des agents séparatistes en Iran, l'ennemi visait à perturber la sécurité publique, à diffuser de fausses informations sur les émeutes et le nombre de morts et à instrumentaliser la question à des fins politiques. Leur aide contre le groupe de contrebande d'armes intervient alors que les groupes terroristes ont intensifié leurs activités ces dernières semaines pour porter atteinte à la sécurité du pays en soutenant les émeutes meurtrières qui ont éclaté après la mort de Mahsa Amini. Les violentes émeutes, soutenues par l'étranger, ont fait des centaines de morts parmi les forces de sécurité et les civils au cours des 2 derniers mois. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté en citant une source d'information locale que le terroriste Abu Hassan al-Hashemi al-Ruraishi, dont Daesh a annoncé la mort, était le même terroriste Abu Abdulrahman al-Iraqi qui a été liquidé lors de l'opération de sécurité à Jassim. Pour rappel, à la mi-octobre, Damas a annoncé avoir lancé une opération conjointe contre Daesh avec des combattants locaux dans le sud de la province de Deraa. Dans un communiqué, le commandant militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM, a affirmé qu'Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi avait été tué à la mi-octobre dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, par l'armée syrienne libre, ajoutant que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la mort de ce terroriste. Le groupe terroriste Daesh a annoncé mercredi 30 novembre la mort de son chef, tué au combat, et la nomination de son successeur. Le porte-parole du groupe terroriste a également demandé aux membres de Daesh de prêter allégeance au nouveau chef. Dans un message audio posté sur Telegram, le porte-parole de Daesh a annoncé qu'Abu Hassan al-Hashemi al-Ruraishi avait été tué sans donner plus de détails sur le lieu, la date et les circonstances de sa mort, précisant que son successeur, Abu al-Hussein al-Husseini al-Ruraishi, avait été désigné. Abu Hassan al-Ruraishi était le 3e chef de Daesh, qui a pris la tête de l'organisation le 10 mars 2022, un mois après que son prédécesseur Abu Ibrahim al-Hashemi al-Ruraishi a trouvé la mort dans une opération héliportée. En outre, il convient de noter que l'armée syrienne a envoyé des équipements militaires, notamment des chars et des véhicules blindés de transport de troupes à la périphérie d'Alep afin de faire face à une éventuelle opération militaire terrestre turque. Les forces militaires syriennes et leurs équipements militaires se sont déplacés vers la ligne de front du conflit avec les groupes armés soutenus par la Turquie. L'arrivée de matériel militaire de l'armée syrienne à Tal Rifat, dans la banlieue nord d'Alep, et son déploiement sur la ligne de front du conflit montrent la possibilité d'une opération terrestre de la Turquie. Cette dernière a averti, il y a une quinzaine de jours, de prendre le contrôle de Tal Rifat, Manbije et Ain al-Arab, qui sont sous le contrôle des forces démocratiques syriennes FDS. Pour éviter les coupures de courant, Elisabeth Borne demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Afin d'anticiper et de préparer la population française, les entreprises et les administrations à d'éventuelles coupures de courant en cas de tension sur le réseau, Matignon a publié une circulaire dédiée à ce sujet. Si le document a suscité quelques inquiétudes, la première ministre Elisabeth Borne a tenu à rassurer les Français de métropole. Si nous ne faisons tous avantage encore pour réduire notre consommation, nous ne serons pas coupés, a-t-elle dit devant un parterre de journalistes. Elle a également rappelé aux citoyens de l'importance de la sobriété énergétique en ces temps difficiles. Nous avons tous une partie de la réponse entre nos mains. Si on baisse tous notre consommation d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat de tout le monde. La compétitivité des entreprises et du même coup, ça évitera d'avoir un moment où on aurait un niveau de production d'électricité insuffisant par rapport à la demande. Par exemple, lors d'une vague de froid, a martelé la chef du gouvernement de ce deuxième quinquennat de Macron. Dans la circulaire de l'exécutif, relayée par l'agence France Presse, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français RTE indique que les coupures d'électricité seront inévitables si la consommation d'électricité ne diminue pas aux heures de pointe de la journée, c'est-à-dire entre 8h et 13h, puis entre 18h et 20h. Janvier serait le mois le plus à risque, a prévenu RTE. Dans le pays voisin, les Belges sont plus inquiets que furieux face à l'inflation et à la flambée des factures d'électricité et de gaz. La Belgique, qui n'a mis en place aucune mesure de soutien pour contrer la flambée des prix, voit également les prix de l'énergie exploser alors que plusieurs manifestations ont été organisées. Les Belges semblent attendre une augmentation de leurs salaires qui sont indexés sur l'inflation. Alors que s'ouvre le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dimanche 4 décembre à Abuja, les travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution se sont achevés vendredi 2 décembre dans la capitale nigériane. Parmi les dossiers sur la table, la lutte contre le terrorisme, les changements de gouvernement par des voies non constitutionnelles et le processus de transition politique. Selon l'un des mémorandums, document officiel de travail que RFI a pu consulter, la lutte contre le terrorisme est désormais une priorité dans la sous-région. Un expert de la CEDEAO résume. Après le Sahel, le terrorisme s'étend à des pays côtiers comme le Togo et le Bénin. Avec une particularité, l'existence d'un cordon ombilical entre les différents groupes qui s'installent dans les pays et de locomotives qui sont Daesh au Sahel et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Enim. Ces deux groupes recrutent massivement au sein de la jeunesse. Et le Conseil des ministres de la CEDEAO laisse à l'appréciation des chefs d'État les mesures urgentes à prendre. Également à l'appréciation des chefs d'État qui doivent se réunir dimanche, sont trois cailloux dans la chaussure. Les transitions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Le ministre des Affaires étrangères de cette dernière a effectué le déplacement pour défendre son pays dans les couloirs. Cela alors que, pour raison de coups ou de double coup d'État, les trois pays sont suspendus des instances de l'institution sous-régionale. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. L'alarme a sonné pour le régime sioniste et ses partisans. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la sonnette d'alarme a été tirée pour le régime d'occupation sioniste et ses soutiens occidentaux, en énumérant les principaux développements récents en faveur de la cause palestinienne. Les deux facteurs, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, sont la crise et l'impasse politique et sécuritaire interne à Israël et la propagation de la résistance anti-occupation de Gaza à la Cisjordanie et aux territoires occupés de 1948. Concernant les autres facteurs montrant que l'alarme a sonné pour Israël, le diplomate iranien a cité la mondialisation de la haine contre le régime sioniste, dont certains aspects peuvent être observés en marge de la Coupe du monde de football au Qatar, ainsi que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution pour instaurer la journée de la mise en place du régime israélien en tant que le jour de la Nakba. L'Assemblée générale des Nations unies a voté cette semaine en faveur d'une résolution pro-palestinienne visant à commémorer le jour de la Nakba qui marque l'expulsion massive et forcée de plus de 750 000 Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres en 1948. Le mouvement sioniste, soutenu par la Grande-Bretagne, a pris le contrôle de la majeure partie de la Palestine par la force des armes et a annoncé la création du régime factice d'Israël. L'Assemblée a adopté la résolution mercredi 30 novembre avec 90 voix pour, 30 contre et 47 abstentions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les tentatives futiles d'Israël et de ses alliés de promouvoir l'iranophobie visent à fournir une respiration artificielle à un Israël mourant. L'accent mis par le régime sioniste apartheid et ses partisans sur l'iranophobie est une tentative désespérée et futile de détourner l'attention du public de la question palestinienne et de fournir une respiration artificielle à un régime sioniste mourant, a-t-il déclaré, faisant référence à la guerre hybride menée par les puissances occidentales contre l'Iran au cours des derniers mois. Les tentatives du régime sioniste, avec le soutien des États-Unis, de normaliser ses liens avec davantage de gouvernements ne diminueraient pas l'aversion du monde pour le régime sioniste et sa nature illégitime, a souligné M. Kanani. Le véritable vainqueur de la Coupe du Monde est la nation palestinienne et son perdant est le régime sioniste. Dans un autre texte publié sur Twitter mercredi, M. Kanani a déclaré que les soi-disant accords de normalisation entre le régime sioniste et certains gouvernements arabes ces dernières années n'ont pas réussi à éradiquer la haine des populations des pays arabes envers le régime d'apartheid. Il a déclaré que la Coupe du Monde 2022, organisée par le Qatar, avait démontré leur dégoût envers le régime de Tel Aviv. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar s'est transformée en une démonstration du dégoût des peuples arabes envers le régime d'apartheid sioniste et une démonstration de la solidarité des nations avec la cause palestinienne. Le régime d'occupation israélien est détesté par toutes les nations, a-t-il dit. Malgré la soi-disant normalisation des liens entre certains pays arabes et le régime sioniste en 2020, les sentiments anti-occupation se sont intensifiés parmi les Arabes, comme cela s'est manifesté lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la première étant organisée par une nation musulmane. Ces dernières semaines, depuis le début du carnaval du football au Qatar, le sentiment anti-israélien est monté en flèche, les fans de football du monde entier agitant le drapeau palestinien pendant les matchs. Les fans de football ont également refusé de parler aux journalistes israéliens couvrant la Coupe du Monde, citant l'occupation illégale des territoires palestiniens et les atrocités débridées contre le peuple palestinien. Outre le boycott des médias israéliens, de grandes bannières pro-palestiniennes sont affichées par les fans de football dans des stades presque entiers au Qatar. Des fans et des joueurs qataris ont également été vus portant des brassards et des rubans arborant le drapeau palestinien en signe de rejet des accords de normalisation avec l'entité illégale sioniste.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, un sujet qui rejoint le sujet de la Coupe du Monde de football 2000 de cette année au Qatar à Doha. Cette Coupe du Monde a été peut-être une des Coupes du Monde la plus politisée qu'on a pu voir durant ces différentes générations de Coupe du Monde. En effet, la Coupe du Monde a été touchée par la crise ukrainienne et la Russie. Elle a été également touchée par ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et on a vu également la présence énorme et la réaction de gens pro-palestiniens, rejetant même les journalistes israéliens présents ou même les Israéliens voulant être présents pour la Coupe du Monde. C'est le sujet de débat d'aujourd'hui. Je vous propose pour commencer donc le reportage que nous avons préparé. Par la suite, nous allons accueillir nos invités. Tout de suite, le reportage.
Le sous-secrétaire général du Hezbollah libanais a fait allusion à la forte présence de la cause palestinienne dans la Coupe du Monde de football du Qatar et au rejet réservé par les représentants des pays musulmans aux Israéliens dans la foulée de cet événement international. Cela est le signe d'un rejet total pour l'existence même du régime sioniste, a affirmé le cheikh Naïm Rassem. Selon le site d'information Al-Aid News, le sous-secrétaire général du Hezbollah, le cher Naïm Rassem, a affirmé que les scènes montrant des citoyens arabes qui évitent la rencontre avec les journalistes israéliens au cours de la Coupe du Monde du Qatar sont le signe que les peuples de la région ne valident pas la décision de leurs gouvernements respectifs de normaliser leurs relations avec l'ennemi. La résistance de la jeune génération face à la normalisation prouve qu'il existe dans notre région un refus primordial envers l'existence même du régime israélien, a précisé le sous-secrétaire général du Hezbollah libanais. Alors que certains États arabes ont trahi la cause palestinienne et lancé un processus de compromis avec le régime occupant sioniste, des nations arabes ont montré à travers la Coupe du Monde qu'elles ne suivent pas le chemin tracé par leurs dirigeants respectifs et qu'elles soutiennent toujours le peuple palestinien face aux occupants. La Coupe du Monde de football 2022 ayant lieu au Qatar a révélé des scènes d'appui à la cause palestinienne avec, entre autres, des spectateurs arabes qui brandissent le drapeau palestinien, profèrent des slogans en signe de solidarité avec le peuple opprimé palestinien et refusent de parler aux médias israéliens. En effet, tous les Israéliens et pas seulement les journalistes ayant fait le déplacement à destination du Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde de football ont plus ou moins reconnu y avoir éprouvé ce sentiment de rejet. À ce sujet, un média israélien a écrit « La Coupe du Monde du Qatar est un miroir qui reflète la véritable place des Israéliens auprès des peuples de la région. Ils ne nous aiment pas, ils ne veulent plus de nous. »
Nous revoilà sur les plateaux, donc nous allons faire venir donc nos deux invités. Nous allons commencer par le docteur Rada Obola, à partir du Liban, à Beyrouth. Bonjour madame Rada Obola.
Oui, bonjour, et bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV.
Merci d'avoir bien accepté d'être notre experte du jour. Notre deuxième invité étant monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, basé à Stockholm. Bonjour monsieur Rami.
Bonjour et salut à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, un sujet qui fait chaud au cœur, j'ai envie de dire, vu la situation palestinienne qui est extrêmement difficile, c'est la présence énorme des drapeaux et des signes palestiniens durant cette Coupe du Monde de football qu'on savait déjà énormément politisée, qui est la première Coupe du Monde à être présent dans un pays musulman, à être accueillie par un pays musulman, à cet événement mondial. Alors on va commencer par madame le docteur Obola. Que pensez-vous donc cette présence de ces remarques, mais également de gens qui s'en sont pris donc à la télévision de l'entité sioniste pour leur dire il n'y a que la Palestine, il n'y a pas d'autres pays sur le territoire palestinien. Que pensez-vous de ces réactions qui n'ont pas finalement mineures, hein. Ce sont des réactions qu'on a pu voir dès le premier jour de cette Coupe du Monde.
Oui, alors concernant la Coupe du Monde en tant que telle, il y a à peu près, je crois, 10 ans, non, 20 ans, la revue Hérodote avait publié un article selon lequel elle intitulait « Le sport, instrument géopolitique ». À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements géopolitiques aussi présents. Mais avec cette Coupe du Monde, il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué justement à renforcer l'image géopolitique de cette Coupe du Monde. Comme vous l'avez bien souligné dans votre vidéo, d'abord, et vous l'avez rappelé, d'abord la Coupe du Monde a eu lieu dans un pays arabe. Bon, premièrement. Deuxièmement, donc, qui porte donc une signification symbolique. L'enjeu pour Qatar était de montrer qu'un pays arabe était capable, même s'il vit sur ses pétrodollars, donc il a la capacité matérielle, et financière, mais en plus il a la capacité au niveau du personnel, et donc il est capable d'organiser un événement international aussi important. Premièrement, et donc et là il faut un effort au niveau des infrastructures, etc. Le deuxième enjeu, et ça c'était très important, comme vous le savez, et là je vais peut-être sortir de ma logique dans laquelle vous vous êtes habitué à Presse TV, parce que justement l'événement est très important. La deuxième symbolique, c'est que Avant justement avant la date prévue de cet événement, une campagne a été justement déclenchée contre le Qatar sous le titre des droits de l'homme. Et donc sous ce titre que le Qatar refuse d'accueillir les homosexuels, donc c'est une violation aux droits de l'homme. Ensuite, avant ils avaient considéré qu'il y avait une maltraitance au niveau des ouvriers qui ont travaillé justement sur les chantiers, etc., etc. Donc toute une campagne qui a été déclenchée et surtout par les médias, par certains médias occidentaux, pas par tous les médias occidentaux. Je parle surtout des médias qui sont qui sont pro-sionistes. Et après, donc, je ne sais pas si c'était par vraiment par une coïncidence, mais l'ouverture de cet événement était une réponse cinglante justement à cette campagne, à savoir que par un verset coranique qui appelle justement que les peuples sont égaux entre eux et que cela est est inscrit dans le Coran. Et c'est le deuxième point. Vous voudrez me laisser un petit peu le temps, s'il vous plaît. Le troisième point, c'est avec un des premiers matchs qui est l'Arabie Saoudite qui a vaincu l'Argentine. Là aussi, il faut voir ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Bon, l'Arabie Saoudite, je ne parle pas du régime. Parlons clairement du peuple saoudien. Ok ? Donc, si je mets à part le régime, d'abord, sur le drapeau de ce royaume, il est marqué Mohammed le prophète. Et or, si vous revenez à toutes les campagnes caricaturales contre le prophète, il n'y a pas une distinction si c'est chiite, sunnite, il y a une diffamation contre le prophète. Quand vous avez un peuple qui brandit ce drapeau contre l'Argentine, qui est connu l'Argentine où il y a beaucoup qui est pro-sioniste, bon, là aussi, ça a déclenché une certaine effervescence au niveau des réseaux sociaux. Et ensuite, vous avez pas mal de pays arabes qui ont réussi à dépasser le premier tour et qui brandissaient, qui sont connus pour avoir défendu la cause palestinienne. Et donc, la Coupe du Monde, à mon avis, est devenue la Coupe de la Palestine, la Coupe de la cause palestinienne. Et donc, cela a été choquant pour les journalistes israéliens. Et certains responsables de l'establishment militaire israélien ont bien souligné que nous, on était conscients de ça, ils ont avoué. Mais l'opinion publique israélienne n'était pas consciente parce qu'on avait tenté de cacher cela à travers justement la campagne de normalisation qui a été faite avec certains pays. Mais c'est une normalisation au niveau des régimes et non pas au niveau des peuples. Donc même le Qatari, le Saoudien, le Tunisien, vous avez tous les Arabes de toutes les régions, que ce soit de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des pays du Golfe, tous les peuples brandissaient le drapeau de la Palestine.
Il y a beaucoup de présence libanaise aussi durant cette Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de présence libanaise. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'il faudrait regarder historiquement la présence en Coupe du Monde de football de pays africains et du Moyen-Orient. Je pense que c'est la première fois, je ne veux pas me tromper, je n'ai pas vérifié cette information, comme quoi il y a deux pays du Moyen-Orient que présents pour la Coupe du Monde, également plusieurs pays d'Afrique du Nord et d'Afrique également présents à cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Pour venir à notre deuxième invité, Ahmad Rami, que pensez-vous donc de cette chaleur finalement des peuples, comme vient de conclure le docteur Obola, ce revirement en disant voilà, nous sommes le peuple et voilà ce que nous pensons de la Palestine et il n'y a que la Palestine. Que pensez-vous de ce message fort de cette Coupe du Monde?
Oui, là où il y a des Arabes, des musulmans, il y a aussi, là où il y a l'être humain, il y a bien sûr la question palestinienne qui est une question centrale dans la politique internationale ou dans la politique arabe. Car dans ce domaine, il y a aussi un match politique qui est jouée entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre la question palestinienne et la résistance palestinienne, qu'il ne faut pas oublier, et l'occupation sioniste de la Palestine qui a duré maintenant depuis 1948. Et maintenant, en réalité, la propagande sioniste veut transformer justement les matchs de football en drogue dont on veut qu'il contribue à oublier les véritables problèmes et à se concentrer sur le football, c'est-à-dire sur le match de football.
Ça s'est retourné un peu contre eux sur cette Coupe du Monde, parce que dès le premier jour, dans les rues de Doha, lorsqu'il y a eu le lancement même de cette Coupe du Monde, les drapeaux, eux, palestiniens, étaient bien là. Plusieurs médias, dont nous-mêmes avons diffusé ces images, ça se retourne un petit peu contre eux. Je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur Rami. Mais pour cette Coupe du Monde qui est extrêmement politisée, moi, je ne me rappelle pas avoir vu une Coupe du Monde aussi politisée. Je veux dire, la présence politique, le discours politique est dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, justement, c'est ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais conclure, c'est que ça, bien sûr, a contrarié les plans de la propagande sioniste. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les peuples arabes et les peuples musulmans et pour les peuples du monde entier, ce qui est normal, c'est la justice. L'injustice est anormale. Donc, essayer de normaliser avec l'occupation sioniste et l'entité sioniste est contre nature. Et c'est pour cela que là où il y a des êtres humains, c'est-à-dire des êtres musulmans et arabes, dans le football, dans la rue, il y a bien sûr aussi la question palestinienne et les questions du monde musulman, dont la question palestinienne est la question centrale. Donc, c'est ce qui est normalisé avec la lutte contre le sionisme et la résistance. Et c'est ce qui est maintenant la résistance, bien sûr, il y a la résistance militaire en Palestine qui est occupée militairement, mais il y a aussi la résistance médiatique, sportive. Et dans les matchs et la Coupe du Monde, il y a toujours cette lutte. Parce que dans cette lutte, il y a bien sûr la campagne, l'armée, entre guillemets, sioniste, qui veut faire oublier la question palestinienne et occuper l'opinion publique, et aussi la résistance du peuple palestinien, la résistance des pays musulmans et la résistance de toute l'humanité qui lutte pour la justice contre cette occupation. Et cette occupation, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'occupation militaire, mais c'est aussi le monde d'aujourd'hui est occupé par la propagande sioniste. Et parmi, dans ce domaine du monde, dans le monde, les matchs, c'est-à-dire les matchs comme les matchs de football, et ce qui s'est déroulé à Qatar dernièrement.
Merci, monsieur Rami. Docteur Obola, alors vous êtes au Liban. Est-ce que ça fait chaud au cœur? Parce qu'on sait comment le Liban essaye d'aider les Palestiniens et la cause palestinienne tous les jours, depuis de nombreuses années. Quelles sont les réactions donc des Libanais qui connaissent ce conflit depuis trop longtemps déjà, qui ont vu beaucoup des leurs mourir pour cette cause? Qu'est-ce que vous pensez donc de cette image des peuples pro-palestiniennes et qui se fait entendre surtout?
Écoutez, déjà le Liban souffre d'une division horizontale et voire verticale au niveau justement de la cause palestinienne. Certains considèrent que qu'est-ce qu'on a à faire avec cette cause palestinienne, ne se sentent pas du tout concernés par cette affaire, alors que d'autres, au contraire, se considèrent concernés par cette affaire. Donc, les réactions sont bien entendu mitigées. Mais cela dit, ce que les Libanais, plutôt l'opinion publique libanaise, voire les médias, et ça c'est au niveau également des médias arabes, c'est que tous sont d'accord que, vous savez, le sport, il faut rappeler, le sport, je veux dire le football, est la face positive de la mondialisation. Donc, ce qui s'est passé avec donc le fait de brandir des drapeaux palestiniens, vous avez mondialisé à nouveau la cause palestinienne. Donc, on ne peut pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas y échapper. Donc, premièrement. Et donc, deuxièmement, au niveau du Liban, pour revenir à votre question, même ceux qui ne se sont pas concernés par la cause palestinienne, au contraire, là maintenant, ils sont en train de découvrir peut-être, comme les Occidentaux et les Israéliens, qu'au niveau des peuples, il n'y a pas de normalisation. Même concernant les peuples qui sont des pays du Golfe et que souvent ces pays du Golfe sont accusés d'avoir normalisé justement, d'avoir été les premiers à encourager la normalisation, je ne veux pas entrer dans les causes de cette normalisation, la normalisation avec l'entité sioniste. Donc au niveau des peuples, donc, quand on voit que ce sont les peuples qui décident si oui ou non la cause palestinienne se poursuit, si oui ou non l'entité sioniste doit persister ou au contraire doit être éradiquée, si, c'est pas une question, ce n'est plus une question qui est liée à un axe. C'est ce que la Coupe du Monde de 2022 a fait découvrir à tous les médias dans le monde. C'est que cette cause palestinienne n'appartient pas à un axe qui est connu sous le nom de l'axe de la résistance, dirigé par la République islamique de l'Iran, avec le Hezbollah, le Liban, la Syrie, l'Irak, etc. Ce n'est pas une cause, elle n'appartient pas à un axe ou bien à un parti. Elle appartient au peuple. Et donc, les peuples ont donné ont hissé leur voix et ils ont exprimé leur avis sur cette question. Point à la ligne.
Merci, docteur. Une autre question. Est-ce que ce genre de réaction, parce que certains experts estiment que l'entité sioniste fait du charme à l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite n'y va pas franc-jeu, mais et pourrait être sur le point de normaliser, comme dit l'expression. Est-ce que vous pensez que ce genre donc, de tapage médiatique peut freiner l'envie de l'Arabie Saoudite et donc de Ben Salman, j'ai envie de dire, de freiner cette envie de normalisation avec l'entité sioniste?
Alors, si vous me donnez un petit peu de temps pour analyser géopolitiquement, c'est-à-dire pour tenter de dévoiler la représentation géopolitique de Mohammed Ben Salman en tant que futur roi, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer le terrain pour devenir roi, et quand il sera roi, il n'aura plus de problème. On sait très bien comment il a éradiqué l'opposition, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, avec les anciens princes, et à l'extérieur avec l'exemple de l'affaire Khashoggi. Bon, ensuite, il est passé, étant donné qu'il y a 80% de la population saoudienne fait partie de la jeunesse, parmi ces 80%, il y a à peu près 60% qui sont des femmes. Donc, bien entendu, pour pouvoir gagner leur voix ou leur soutien, pour que son pouvoir soit légitime et accepté par cette génération, il était obligé donc également d'éradiquer ce qu'on appelle le clergé religieux wahhabite. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a ouvert, si j'ose dire, les portes des droits libres, des droits de liberté individuelle. Et donc, quand vous voyez les femmes et les hommes, et la jeunesse saoudienne qui se rend au mondial et qui remercie, qu'on soit pour ou avec, finalement, c'est un peuple qui exprime son droit de s'exprimer envers son royaume. Je ne peux pas intervenir là-dessus, mais je prends les faits tels qu'elles sont. Quand vous avez, que ce soit la jeunesse féminine ou la jeunesse masculine, expriment leur soutien à Mohammed Ben Salman pour les avoir, et expriment, surtout, ils ont exprimé une loyauté envers l'équipe de football saoudienne, mais en même temps, ce même jeune qui exprime sa loyauté envers Mohammed Ben Salman, qui avec son équipe, il exprime à la fois son soutien à la cause palestinienne. Vous pensez vraiment que Mohammed Ben Salman va perdre ses voix, cette jeunesse? Ça, je parle des conséquences de ce mondial sur la politique de Mohammed Ben Salman. Or, ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous pensez vraiment que Mohammed Ben Salman, qui est en fait l'héritier de quoi? D'un royaume, mais ce royaume, il est connu sous quoi? Le serviteur des Haramais. Donc, vous avez toute une... La Mecque est tout un symbole. C'est tout un symbole. Vous croyez qu'il va perdre les milliards de musulmans et faire une normalisation officielle avec l'entité sunnite? Oui, il y a une normalisation officieuse, mais je ne crois pas qu'il va faire une normalisation officielle pour ces deux raisons. Une raison symbolique religieuse qui constitue un pilier de la représentation géopolitique saoudienne et une raison sociale, culturelle, qui est en relation avec la jeunesse saoudienne, le peuple saoudien.
Merci, docteur Oubola. Je rappelle, à partir directement de Beyrouth, du Liban. Merci à monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, basé à Stockholm, de nous avoir donné votre expertise concernant donc cet événement mondial qui est donc la Coupe du Monde. Je vous remercie encore pour votre expertise. Je remercie vous, auditeurs, de nous suivre sur Presse TV français. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous suivre sur Telegram, les différents réseaux sociaux que nous possédons. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ici, à partir de la capitale de l'Iran. Au revoir.
En Europe, l'inflation ne faiblit pas. En novembre, la hausse des prix à la consommation a atteint 6,2% sur un an, comme en octobre, selon l'estimation provisoire publiée par l'INSEE. Les économistes estiment que le pic d'inflation n'est pas encore atteint. Malgré un rebond du pouvoir d'achat au troisième trimestre, la consommation cale déjà. Le taux d'épargne, lui, remonte nettement. La hausse des prix à la consommation est alimentée toujours par l'envolée des prix de l'énergie, plus 18%, même si la hausse a ralenti en raison du retournement des cours du pétrole. Les prix alimentaires ont continué, eux, d'augmenter ce mois-ci de 12,2% sur un an et les prix manufacturés de 4,4%. Ceux des services ont décéléré en revanche, plus 3%. Du fait de la réduction de la ristourne à la pompe de 30 à 10 centimes par litre de carburant mi-novembre, on aurait pu attendre une hausse de l'inflation, observe Sylvain Bersinger, économiste chez Aster, qui note deux autres points positifs. La hausse des prix en variation mensuelle est tombée d'1% à 0,4%. Par ailleurs, les prix de production dans l'industrie ont reculé d'1,1% en octobre. La France fait toujours moins bien que la zone euro, où pour la première fois en 17 mois, les prix ont diminué en novembre. Le pic est devant nous et il est probable qu'il soit plus tardif que dans le reste de la zone euro, prévient Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Selon les économistes, l'arrivée d'une version moins généreuse du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité à partir de janvier devrait ajouter de l'inflation dans l'hexagone entre 0,6% et 0,7 points d'inflation selon Rexcod. Cela va faire remonter le niveau des prix de l'énergie payée par les ménages, ce qui entraînera une augmentation de l'inflation au cours des 12 mois suivant son entrée en vigueur, explique Gilbert Sette, professeur à Neoma Business School. Selon lui, après avoir été le bon élève de la lutte contre l'inflation, l'Hexagone risque même de subir des hausses de prix plus fortes que ses voisins européens le jour où les cours de l'énergie refuleront. Si les prix de marché du gaz et de l'électricité baissent tout en restant supérieurs au prix garanti par l'État avec son bouclier tarifaire, ce sera neutre pour l'inflation en Europe. En revanche, dans les pays de la zone euro qui n'ont pas de bouclier, le repli du taux d'inflation sera mécanique, arc-t-il. Pour l'instant, l'inflation pèse sur la consommation et sur la croissance. Au troisième trimestre, l'activité économique n'a progressé que de 0,2%, a confirmé l'INSEE, et les dépenses des ménages sont restées quasi stables, moins 0,1%. Signe de mauvais augure pour la croissance en fin d'année en octobre, et les achats de biens ont chuté de 2,8% en volume. Pendant l'été, le revenu disponible brut, RDB, a certes augmenté de 2,6% en euros courants grâce aux revalorisations des prestations sociales, à l'accélération des salaires, en particulier du SMIC, et aussi aux créations d'emplois. Mais les prélèvements fiscaux sont en nette hausse, a dit l'INSEE. Et fin sur la période, le pouvoir d'achat par unité de consommation a rebondi de 0,8%, mais il reste sous pression après le fort recul enregistré au premier, moins 1,8%, comme au deuxième trimestre, moins 1%. Par ailleurs, le contexte nimbé d'incertitudes entre les risques géopolitiques, la flambée des prix et la crise énergétique incite à la prudence. Plutôt que dépenser, les ménages affichent une nette préférence pour l'épargne de précaution, même s'il est déprécié par l'inflation. Leur taux d'épargne est ainsi remonté à 16,6% du revenu disponible contre 15,8% fin juin. La bonne surprise vient des entreprises. Au troisième trimestre 2022, leur taux de marge a augmenté de 0,3 points pour s'établir à 31,8% et leurs investissements progressent d'1,7%. La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB reste en revanche négative. À ce stade, ce n'est pas le scénario le plus noir qui attend l'économie française en fin d'année, estime Mathieu Plane. Selon ses calculs, il faudra néanmoins à minima 0,5% de croissance au dernier trimestre pour que le PIB progresse de 2,7% en 2022, comme le prévoit Bercy. Le responsable de l'intelligence économique de l'Institut Amundi, Pierre Blanchet, affirme qu'en Europe, l'inflation est toujours en train de progresser, et pas seulement à cause de la situation dans l'énergie, mais aussi dans les autres sphères de l'économie, comme les services. Les gouvernements devront se garder également de défaire ce qu'essaient de faire les banques centrales par des dépenses ou des baisses d'impôts inconsidérées, prévient Pierre Blanchet. Le Royaume-Uni nous a récemment rappelé quelles sont les conséquences d'une mauvaise coordination entre la politique monétaire et la politique fiscale, dit-il. La lutte des banques centrales contre l'inflation plombera tant et si bien la consommation des ménages et l'investissement des entreprises que la croissance aux États-Unis sera pratiquement nulle l'année prochaine et que l'économie européenne accusera un léger repli. La contraction économique est d'ailleurs déjà commencée en Europe et devrait se poursuivre durant la première moitié de l'année 2023, dit Pierre Blanchet. Le ralentissement ne sera pas tellement violent, il n'y a pas de raison de se faire peur. Mais la reprise sera également molle parce que les conditions monétaires ne vont pas tellement se desserrer en 2024 et que la crise énergétique en Europe va continuer de se faire sentir. L'escalade de la tension entre la Russie et l'Europe dans le domaine énergétique a fait craindre pendant un certain temps la fermeture forcée cet hiver de certains secteurs de l'économie européenne faute de gaz naturel russe. Le ralentissement de l'activité économique en Chine, les conditions météorologiques favorables ainsi que les efforts déployés par les Européens pour reconstituer leurs réserves de gaz devraient permettre d'éviter le pire cette année. Se réjouit Pierre Blanchet, mais tout cela sera à refaire l'hiver prochain en 2024. Malheureusement ou heureusement, la crise énergétique que traverse l'Europe a aussi pour effet d'accélérer la transition verte. Elle la rend même obligatoire et de façon très large, quels que soient les pays et leur bouquet énergétique. Mais pour que l'économie ne pique pas trop du nez l'an prochain, on aura aussi besoin d'un coup de pouce de la Chine, qui devrait avoir vu sa croissance ralentir à seulement 3,2% cette année, selon le Fonds monétaire international. Elle est censée être le principal contributeur de la croissance en 2023. Si elle ne parvient pas à revenir à un taux de croissance de 4,5% à 5% en 2023, l'économie mondiale se portera beaucoup plus mal.